OK, on continue notre étude sur Jonas. On est dans la deuxième partie. Ce soir, ce qu'on va regarder, c'est trois autres aspects du livre. Donc, on va regarder son contenu, ses leçons morales et une réflexion sur les motifs de sa suite, de sa fuite, c'est-à-dire, excusez. Le premier point qu'on va regarder, c'est le contenu du livre de Jonas. Donc, il se divise en deux grandes parties qui comportent deux chapitres chacune. Donc, la première partie, il reçoit un ordre de mission et il désobéit. Donc, la mission de Jonas, on l'a dans chapitre 1, versets 1 et 2. La manière dont s'ouvre le livre semble indiquer que Jonas est déjà un prophète confirmé lorsque Dieu le charge de se rendre à Ninive. Le livre décrit Ninive comme une grande ville. Plus loin, Jonas ajoute que c'est une ville de 3 jours de marche. Comment faut-il comprendre cette indication? Fallait-il 3 jours pour en faire le tour ou 3 jours pour la traverser de part en part? Dans le premier cas, elle aurait pu avoir une circonférence d'environ 100 km et une surface d'environ 800 km². Dans le deuxième cas, elle aurait été 3 fois plus étendue. Jonas parle peut-être du district de Ninive et non de la ville proprement dite. Quoi qu'il en soit, la zone couverte par la ville comporte beaucoup de pâturages puisqu'elle abrite des animaux en grand nombre et une population estimée à 120 000 personnes. Donc, dans le verset 3, on apprend que même si Dieu l'appelle à aller là, lui, il décide qu'il désobéit. Je pense que ça vient nous montrer des leçons sur nous comme chrétiens, que le Seigneur peut nous donner des ordres ou des indications à faire des choses, puis qu'il ne faut pas juger Jonas trop sévèrement, trop vite, comme on dit. Pourquoi Jonas désobéit-il au Seigneur? Rien ne prouve qu'il était lâche. Il fait d'ailleurs preuve de beaucoup de courage par moment. Peut-être n'avait-il aucune sympathie pour des missions en terre étrangère et tenait-il à son honneur de prophète d'Israël. Ce ne fut certainement pas le long déplacement qui l'effraya, car le voyage vers Tarsis, probablement que ça se trouvait sur la côte espagnole, était beaucoup plus risqué. Pour aller à Ninive, il devait parcourir environ 900 km par la route, alors que Tarsis se trouvait à 4000 km dans la direction opposée et qu'il fallait prendre la mer. Imaginez, le Seigneur vous donne un ordre d'aller dans une direction, puis tu t'en vas dans la direction opposée, puis 4 fois plus loin qu'il t'avait demandé au départ. Ça, c'est spécial. Alors, on a une petite carte, ceux qui veulent regarder la petite carte, ça vous donne une idée. Aucune de ces spéculations concernant la désobéissance de Jonas ne tient devant un examen sérieux, car il est évident qu'il est animé d'un fervent patriotisme. La Syrie est le plus grand ennemi d'Israël, une puissance impériale perverse et cruelle qui menace constamment sa patrie. Il se peut d'ailleurs que Jonas ait appris, par une révélation divine, que l'Éternel allait se servir des Assyriens pour punir les Israélites. Jonas préfère voir les Assyriens mourir dans leur péché. Le cœur de l'homme. Il ne souhaite pas les voir bénéficier de la faveur de Dieu. L'obéissance à l'ordre d'aller prêcher à ce peuple pouvait les amener à la repentance et par voie de conséquence, à obtenir le pardon de Dieu. Il serait alors préservé au lieu d'être détruit. Au cœur de la désobéissance de Jonas, il y a sa certitude de l'extraordinaire compassion de Dieu. Jonas le reconnaît fort bien par la suite lorsqu'il dit « Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » et qui te repent du mal. Jonas est prophète de l'Éternel pour Israël et il a le souci de son propre peuple. Son patriotisme est tel qu'il est prêt à renoncer à son ministère, à encourir la colère de Dieu, plutôt que de compromettre le bien-être de ses compatriotes. Peut-être craint-il que l'Éternel ne reporte son amour sur la Syrie. Jonas désobéit donc délibérément à Dieu. Il part en direction du sud, vers le port le plus proche, celui de Jaffa ou Joppé. trouve un bateau en partance pour Tarsis et achète son billet. En fuyant Tarsis, Jonas tente de se soustraire au commandement de Dieu d'aller prêcher à Ninive. Il est irrité à la pensée que Dieu pourrait se montrer compatissant envers le grand ennemi d'Israël. Monté à bord du navire, il s'éloigne de Joppé dans une vaine tentative pour s'enfuir loin de la face de l'Éternel. À partir du verset 4 jusqu'au début du chapitre 2, on a la souffrance de Jonas. Une violente tempête éclate et menace la sécurité du navire. L'équipage allège le bateau en jetant par-dessus bord une partie de la cargaison. Quant à Jonas, il est descendu dans la cale où il s'est endormi profondément. Le capitaine en colère va le réveiller, puis l'équipage tire au sort pour savoir qui attire un tel malheur sur le navire. Le sort tombe sur Jonas, qui confesse sa faute, et demande à être jeté à la mer, puisque c'est lui qui est responsable de la terrible tempête. Les matelots redoublent d'efforts pour gagner la terre, mais en vain. Ils se résolvent alors à jeter Jonas à la mer. Mais l'Éternel n'a pas abandonné son serviteur. Il envoie un gros poisson pour maintenir Jonas en vie. Et dans les versets 2 à 10, chapitre 2, on a la prière de Jonas. Dans le ventre du poisson, Jonas fait monter vers Dieu un psaume de louange. Une supplication pour être délivré semblerait plus à propos qu'une prière de louange pour la délivrance accordée. Mais Jonas vit selon le principe de la foi. Il comprend que sa survie dans le ventre du poisson est le gage d'une délivrance encore plus grande. Dans sa prière, il loue Dieu de l'avoir gardé de la noyade, car Jonas a été englouti vivant par le poisson. Celui-ci n'est pas un agent de jugement, mais un moyen de salut. La prière du prophète révèle une note de confiance quant à l'issue de l'épreuve. Jonas chante déjà sa délivrance, comme s'il se rendait compte que sa préservation miraculeuse dans les entrailles du poisson indique que le Seigneur va le délivrer de la mort. Il existe de nombreux parallèles entre le psaume de Jonas et ceux de David et de ses contemporains. Dans sa prière, Jonas fait allusion à plusieurs de ses cantiques sacrés. Il ne les cite pas mot pour mot, mais il est évident qu'il est familiarisé avec ces passages inspirés et il adopte leur langage. Et dans le verset 11 du chapitre 2, on a la délivrance de Jonas. Que d'autres individus aient pu être retrouvés vivants après avoir été engloutis par un grand poisson importe peu. Même s'ils ont survécu à une telle épreuve, leur situation était très différente. Non seulement Jonas survécut, mais il fut constamment conscient et cohérent sur le plan mental comme sur le plan émotionnel, au point d'être capable de composer un psaume et d'adorer Dieu avant d'être rejeté par le grand poisson. Les modernistes voient là un obstacle majeur à l'acceptation de l'interprétation littérale du récit. Ils ne tiennent pas compte du fait que l'expérience de Jonas se situe dans le domaine du miraculeux. Ça dit dans le verset 1 du chapitre 2, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. » Mais un miracle encore plus grand allait se produire dans la conversion spectaculaire d'un grand nombre de Ninivites païens décidés à servir le Dieu vivant et vrai. En réponse à la prière, l'Éternel ordonna au poisson de vomir le prophète sur la terre ferme. Dans la deuxième partie du livre, donc c'est les chapitres 3 et 4, on a le deuxième ordre de mission de Jonas, mais qui cette fois-là obéit. Alors, les versets 1 et 2 du chapitre 3, c'est vraiment la mission qui est réitérée. Donc, l'histoire recommence. La seconde partie du livre forme un parallèle étroit avec la première. Mais cette fois-ci, la fin est différente. Au lieu de se cabrer et de se détourner de sa mission, Jonas obéit. L'histoire montre toutefois que les dispositions de son cœur n'ont guère changé. Il nourrit encore du ressentiment envers Dieu pour la compassion témoignée aux Assyriens. Dans le verset 3 et 4, on a l'obéissance de Jonas. Fondé par Nimrod, Ninive est la capitale de l'empire assyrien. Jonas y prêche le message de Dieu, l'annonce d'un jugement et d'un désastre imminent. Le Seigneur déclare que Jonas fut un signe pour les Ninivites dans Luc 11, verset 30. Non pas son message, mais sa personne qui fut un signe, donc sa personne qui est un signe et non pas son message. Le prophète se présente devant les habitants de Ninive comme un homme miraculeusement rescapé de la mort, qui les presse d'échapper au danger qui les menace. En apprenant comment Dieu a agi avec Jonas à la suite de sa désobéissance, les Ninivites sont mieux disposés à prendre au sérieux le message divin. Dans le verset 4, il leur avait dit « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Dans un peu moins de 6 semaines, la ville connaîtra le juste jugement du Dieu vivant. Et dans le verset 5 à 10 du chapitre 3, on a le succès de Jonas. Alors, le sombre message de Jonas a des effets remarquables. Un vaste réveil se produit dans toute la ville. Les habitants prennent Dieu au mot et se tournent vers lui dans la repentance. Lorsque la nouvelle parvient au roi de Ninive, lui aussi se repent et invite tous les citoyens à faire de même, qu'il crie à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. La référence à la violence est pertinente, car les Assyriens étaient connus pour leur extrême brutalité. La cruauté des traitements qu'ils infligeaient à leurs ennemis dépassait la sauvagerie de l'époque. L'Éternel voit que la repentance des Ninivites est réelle. Non seulement les habitants se couvrent de sacs et crient avec force à Dieu, mais ils reviennent aussi de leur mauvaise voie. À la suite de cette repentance, il semble que le jugement de Dieu contre Ninive ait été rapporté d'environ 200 ans. Vers 650 avant Jésus-Christ, le prophète Nahum prédit la destruction de la ville. Celle-ci fut effectivement détruite en 612 avant Jésus-Christ. Dans le chapitre 4, on a la prière de Jonas. Jonas connaît la nature de Dieu. La clé de compréhension du livre se trouve dans cette partie. « Ah, Éternel, n'était-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te répand du mal. » Malgré la confiance en Dieu que Jonas affiche dans son psaume, il se montre opposé à la miséricorde divine. En tant que prophète, il aurait dû être l'exemple même de la piété et de la spiritualité. Mais Jonas fait tout pour désobéir à Dieu. Même quand il accomplit à contre-cœur et en rechignant les devoirs de son office, la conversion subséquente des païens le remplit d'amertume. Il aurait préféré mourir plutôt que d'être témoin du spectacle de cette grâce merveilleuse. Maintenant, dans le verset 4 à 11, chapitre 4, on a le reproche que Dieu fait à Jonas. Jonas ne parvient pas à éprouver de la compassion pour l'ennemi d'Israël. Il cultive toujours l'espoir de voir la destruction des Assyriens. Son expérience dans le ventre du grand poisson ne semble pas avoir modifié durablement les dispositions de son cœur vis-à-vis du dessein de Dieu. Il lui en veut d'avoir une attitude aussi compatissante et miséricordieuse. L'Éternel va donc enseigner au prophète une autre leçon vitale à travers la croissance et les desséchements d'une plante. Le message de la grâce imméritée de Dieu et de sa compassion envers les plus petits ressort clairement dans les dernières paroles qu'il adresse à son serviteur. « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Assez spécial. Les leçons morales du livre de Jonas, deuxième point, la providence. Notons les quatre choses que Dieu fit dans ce livre. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. L'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas. Dieu fit venir un ver et Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Dieu exerce une souveraineté indubitable sur la nature, sur les éléments naturels et sur toutes les circonstances. Les chrétiens sont familiarisés avec l'idée du Seigneur qui apaise la tempête, mais ils répugnent souvent à reconnaître que c'est lui qui fait souffler la tempête en premier lieu. Le grand poisson vomit Jonas sur la terre. Quand Dieu opère un miracle, il ne le fait pas à moitié. Jonas ne fut pas obligé de nager jusqu'au rivage, ni d'escalader des berges boueuses, comme Moïse et les enfants d'Israël lors de la traversée de la mer Rouge après leur sortie d'Égypte, ou Josué et les Israélites lors de la traversée du Jourdain pour entrer en Canaan. Jonas se retrouve sur la terre ferme. Deuxième leçon morale, l'appel réitéré. L'expérience de Jonas sert de mise en garde à tous les serviteurs de Dieu contre la désobéissance. Elle illustre aussi admirablement la grâce divine qui rétablit celui qui a péché. Quel bonheur de ne pas être rejeté pour cause d'infidélité ou de désobéissance. L'apôtre Pierre fut relevé publiquement après son horrible reniement du Seigneur. Le Seigneur est prêt à utiliser des instruments indignes comme messager. Que c'est beau. Troisième point, la prière dans les moments difficiles. Ça dit dans les Écritures, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Et dans le psaume 130, versets 1 et 2, nous avons « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. » On a aussi dans le psaume 40, versets 2 et 3, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. » Grâce à sa mémorisation de l'Écriture, Jonas connaissait les psaumes. Il fut certainement consolé et réconforté par la prière de David, psaume 139, versets 7 à 10. « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. La mission mondiale, quatrième point. Il est normal que nous ayons le souci de notre peuple. Bien qu'apôtre des païens, Paul témoigne d'un souci profond et d'une grande compassion pour son propre peuple. Il ne faut cependant pas que l'intérêt porté à notre nation ou à notre race masque nos responsabilités à l'égard du reste du monde. Le livre de Jonas reprend les Israélites pour ne pas avoir eu une vision mondiale. Leur histoire aurait dû être un puissant moteur pour l'évangélisation de toutes les nations. L'Éternel avait promis à Abraham que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Le peuple d'Israël était le serviteur de Dieu, chargé d'apporter la connaissance du Seigneur au monde. Le contraste entre Jonas et Dieu illustre admirablement l'amour de l'Éternel pour le monde non israélite. Jonas a de la peine pour une plante. Dieu se soucie des hommes. Jonas s'intéresse à son propre sort, Dieu à celui des autres. Jonas ne fait rien pour le ricin. Dieu crée les hommes et pourvoit leurs besoins. L'Éternel a toutes les raisons d'être compatissant, c'est dans sa nature. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien d'être irrité à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de mériter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit? Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive? » Comme ça dit dans Romains 9, verset 15, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Dans son irritation, Jonas invoque la compassion de Dieu comme sa raison pour refuser de prêcher aux païens. Dans sa compassion, Paul s'appuie sur la miséricorde de Dieu pour continuer de prêcher aux païens. Même à l'époque néo-testamentaire, les chrétiens d'origine juive hésitèrent à annoncer la bonne parole aux païens. Le Christ ressuscité avait promis à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il semble pourtant que les disciples n'étaient pas très empressés d'obéir à l'ordre d'évangéliser le monde. Il fallut la persécution de l'Église primitive pour que les chrétiens se dispersent dans toutes les contrées de la Judée et de la Samarie. Les résultats de cette persécution furent en tout cas bénéfiques en termes de propagation de l'Évangile. Un peu plus tard, il fallut une vision et un rêve pour encourager l'apôtre Pierre à entrer dans la maison du païen Corneille. Plus tard encore, le même apôtre écrit aux judéo-chrétiens de la diaspora. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Le salut de Dieu ne se confine pas à une seule nation. Et on va terminer le troisième point avec une réflexion sur les motifs de la fuite de Jonas. Pourquoi le prophète Jonas s'est-il enfui pour ne pas aller prêcher aux Ninivites? Plusieurs réponses ont été données pour répondre à cette question. Parmi les réponses suggérées, les plus fréquentes sont parmi les suivantes. Jonas était un peu heureux. Une personne dominée par la haine des païens, un jaloux égoïste de son propre prestige, un religieux intolérant. Il était un entêté, il avait un esprit légaliste, il avait un tempérament déloyal et un cœur dur. Ces suggestions sont-elles exactes? Ou bien le véritable caractère de Jonas est-il le plus mal représenté de toute la Bible? Jonas n'était très certainement pas un peureux, lâche, car lors de la tempête, il était tranquillement endormi au fond de la cale du bateau. Il est fort peu probable qu'il avait une haine bigote des païens, puisqu'il accepta d'être jeté par-dessus bord pour sauver la vie des marins. Certains auteurs ont avancé l'idée que Jonas était un prophète populaire et qu'il a eu peur d'aller prêcher aux ennemis d'Israël par crainte d'être rejeté et méprisé du peuple. Ses motifs véritables se trouvent dans Jonas, chapitre 4, verset 2, et dans la cruauté sauvage de la Syrie. Jonas, chapitre 4, verset 2 et 3, « Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'était-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Jonas était un patriote qui aimait son peuple. Il savait que l'Assyrie était la force montante qui détruirait Israël. Il cherchait à sauver Israël au risque d'attirer la vengeance de Dieu sur lui-même. La brutalité des Assyriens de l'époque était notoire. C'étaient les nazis de l'Ancien Testament. Ils étaient impitoyables et d'une très grande cruauté et pratiquaient la tuerie massive. Ils dépassaient de beaucoup la cruauté de l'époque. Ils construisaient des pyramides de crânes de leurs ennemis. Ils brûlaient vifs des garçons et des fillettes. Ils arrachaient la langue de leurs ennemis. Ils écorchaient vifs, crevaient les yeux, coupaient les mains et les pieds, les oreilles et le nez, empalaient leurs ennemis. Alors, on peut comprendre pourquoi il filait pas pour que Dieu... Il aurait mieux aimé que Dieu les juge. Nahum, chapitre 3, verset 1 à 3. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. Jonas était un patriote prêt au martyr pour éviter que son peuple ne tombe entre les mains des Ninivites. Ce sont les circonstances atténuantes de sa désobéissance. Cependant, elle n'excuse nullement la désobéissance envers le Seigneur, et encore moins de reprocher au Seigneur d'être miséricordieux. Faut le faire. Après ça, vous avez un tableau à la page 11, vous regarderez ça, Jonas et les marins, où on compare les deux avec leurs attitudes, etc. Et après ça, vous avez aussi un autre tableau à la page 12, qui fait un parallèle entre Dieu et Ninive, et Jonas et la plante. Autrement dit, comment Jonas avait la miséricorde pour sa plante, puis qu'il n'avait pas pour les hommes. En tout cas, c'est intéressant de regarder ces deux choses-là. Et les applications qu'on peut tirer du livre. Premièrement, sachons que notre obéissance à Dieu n'est pas facultative. Elle est obligatoire. Et Dieu est pleinement justifié de forcer notre obéissance lorsqu'il le faut. Il peut provoquer de grandes tempêtes dans nos vies. Deuxième application, n'écartons personne dans notre évangélisation. Que notre vision missionnaire soit universelle. Soyons prêts à investir des efforts, des prières et notre argent pour faire avancer sa cause dans le monde. Louons le Seigneur pour sa patience et sa grande miséricorde. Amen.